Évariste Pilon était un jeune inspecteur qui venait de débuter au commissariat de Fort-de-France. Il était la fierté de sa famille, mais aussi de l'île, car il était le premier nègre martiniquais à accéder à ce poste. D'habitude, ce genre de fonction était réservé aux blancs de la mer secourable, la France. Bien qu'il fût major de sa promotion avec tous les éloges de ses instructeurs, la direction lui refilait toujours les petites enquêtes, bien évidemment, tandis que les gros dossiers étaient attribués à ses deux collègues caucasiens, Yves et Simon. Mais aujourd'hui, mes amis, c'était son jour de chance, oui. Yves étant alité à cause de la dengue et du chikungunya, et Simon en congé chez lui en Normandie, notre Évariste put enfin enquêter sur son premier meurtre, Yécric. Notre inspecteur fut convoqué de bonne heure à la petite plage située juste en bas du lycée de Bellevue. Il constata le corps inerte d'une jeune femme dont les crabes commençaient déjà à dévorer. Après un examen minutieux du médecin légiste et plusieurs témoignages, l'inconnue se prénommait Claudette Valtan. Son meurtrier l'avait étouffée avec probablement un morceau de tissu en coton de couleur noire au cours de la nuit. Puis il l'avait transportée comme un gros sac de poids d'Angol jusqu'au bord de la mer. Claudette habitait au Mont Pichevin dans la case de ses parents. Ses parents furent surpris que leur fils était éclipsé de chez eux au mi-temps de la nuit. Et bien bon, tu sais quoi cette histoire? Elle était une jeune femme de 23 ans sans histoire qui travaillait comme secrétaire à la caisse des impôts. Malgré plusieurs interrogatoires de ses parents connaissant ses collègues, Claudette semblait aimer la solitude. En effet, elle n'avait ni amie et ni même petite amie. Et notre Évariste commençait à tourner en rond. La victime n'avait apparemment pas d'ennemis, donc serait-ce un meurtre non prémédité? Avait-elle fait une mauvaise rencontre? Pourquoi elle irait se promener au bord de la plage en pleine nuit? Peut-être qu'elle se rendait à un rendez-vous, mais avec qui? Mes chers enquêteurs, écoutez bien. La tête de notre inspecteur commençait déjà à chauffer. Surtout que la direction le surveillait de près, afin de déboucher rapidement le champagne s'il se plantait. Et oui, le bougre devait rapidement boucler cette enquête avant le retour de ses collègues. Néanmoins, il détenait une petite piste. Au dire de ses parents, Claudette passait une bonne partie de son temps à la bibliothèque Shelcher. C'est donc avec détermination que l'inspecteur questionna tout le personnel de la bibliothèque. Hélas, mes copains. Aucun employé ne semblait connaître cette fameuse Claudette. Néanmoins, pendant l'interrogatoire, il sentit qu'une certaine bibliothécaire au sein pulpeux qui semblait vouloir sortir de son chemisier en savait plus qu'elle ne prétendait et qu'elle était disposée à lui dire un peu plus s'il passait lui rendre visite chez elle. Bien évidemment, on va pas se mentir, notre Évariste accepta, et ben bon Dieu. Il était certes fiancé à sa Jeannine, mais pas encore marié devant le curé tout de même. De plus, c'était sa première enquête. Il devait se donner corps et âme. Mais bon, dans cette circonstance, il donna tout son corps et sa semence, mais oui, afin que la bibliothécaire lui confie que Claudette montait souvent dans une Peugeot 404 blanche, dont le conducteur était un bel homme. Ah bon? Quel genre de bel homme? Béquet, mulâtre, syrien, chinois? Questionna-t-il épuisé, car la madame l'avait siphonné quatre fois de suite. Un beau nègre couli, oui. Eh bien, qui sont qu'a dit moi là? Depuis qui t'en nègre ni l'auto con ça? C'était probablement la voiture de son employeur, répondit-il. Sachez, mes amis, c'était les années 60. Et à cette époque, il était rare que le nègre puisse accéder à ce genre de choses. Son grand luxe était une nouvelle paire de chaussures tous les 5 ans pour aller à la messe. Donc, il fut facile pour notre inspecteur de retrouver ce fameux nègre couli qui charroyait Claudette tous les vendredis apparemment. Ben, vous saviez pas ça, les copains? Avant, on n'avait pas droit à la voiture. C'était hors de prix pour nous. Enfin bon, les temps ont changé. Alors, concentrons-nous sur notre histoire. Le monsieur se nommait Jacques Cléoste. Il habitait à Balata, et semblait être un homme qui jobait un peu partout. Or, après quelques investigations, Évariste constata que Jacques Cléoste était bel et bien le propriétaire de cette voiture. Comment diable il aurait pu s'en payer une malgré ses différents jobs? Surtout, quelle était sa relation avec la victime? Si Claudette cachait leur relation, c'est qu'il devait être forcément louche. Mais après plusieurs interrogatoires, M. Cléoste s'entêtait à dire qu'il ne connaissait pas de Claudette Valtan. Anguille sur roche, je vous le dis. Étant une authentique Martiniquais, il savait que les meilleures enquêtrices de cette île étaient nos commères, bien évidemment. Et oui, notre emblème national, quand même, à préserver. Notre Évariste savait que le bougre mentait, mais il avait aucune preuve concrète. Donc, il alla à la messe du dimanche matin à l'église de Balata pour repérer les langues qui alimentaient Radio Bois Patate. Si vous aviez à la messe, votre maman participait, je suis sûre, à la conversation. Moi, j'ai entendu pas mal de choses sur le parvis de l'église de Debrouillard. Enfin, bref, revenons à notre histoire. C'est bien évidemment sous le parvis de l'église que vous pouviez savoir tous les commérages du voisinage. Il repéra la grande matrone de cette assemblée qui se nommait Manjalta. Il interpella afin de lui poser quelques questions. Bien évidemment, la dame parla car elle avait peur que la police se mêle du business illégal de son fils. Oui, mon cher, je connais Jacques Cléoste. Il habite avec sa mère dans une maison verte et jaune près de fromager. Sa maman Josette est la fille de Monsieur Perrin, un pêcheur du Vauclin. Mais oui, tu dois connaître la famille Perrin et blablabla. Bouchement d'homme l'empâté, dit dimanche. Elle a remonté l'arbre généalogique du bougre, puis elle a parlé de ses problèmes de dos, puis elle a parlé des problèmes d'arthrite de la maman pour rebondir sous la voisine qui volait ses membres. N'y t'en as plus. L'inspecteur l'interrompit avec rudesse. M'en pas demandé autre ça. Je veux juste savoir si Jacques Cléoste fréquente une femme. Est-ce qu'il a déjà présenté une copine à sa mère? Pas que je sache, c'est un homme célibataire, répondit la matrone. Et depuis quand il a sa voiture? Depuis 8 mois. Et cela ne vous a pas choqué? Comment un bouc comme lui peut se payer ce genre de voiture? Oui, au début, on pensait que sa mère avait forcément serré des billets qu'elle avait grappillés de son défunt époux. Mais nous avons constaté que c'était le cadeau du fils de Monsieur Siri. Monsieur Siri, ça qui boucta. Oui, le fils de Monsieur Ajor, un Syrien qui a un magasin au centre-ville. Comment vous savez ça? Eh bien, figurez-vous, mon cher, le cousin du demi-frère de la tante maternelle de la nièce de mon mari travaille au garage où il a acheté. Pour quelle raison le fils de Monsieur Ajor a offert une voiture à Monsieur Cléoste? Comment ces deux personnes qui n'évoluent pas dans le même cercle social puissent se fréquenter? Troublé par cette information, Évariste se rendit à la boutique de Monsieur Ajar. Elle était située à la rue Arago et affichait une grande pancarte colorée. Bienvenue à la boutique aux mille et une merveilles. Ne voulant pas éveiller les soupçons, il décida de se faire passer pour un client. Pendant sa recherche d'une soi-disant nappe pour son hypothétique épouse, il scruta de loin le père Ajar et son fils Ahmed qui conseillaient les clients. Notre inspecteur constata que la plupart des clients étaient de la gente féminine. Bon, jusqu'à maintenant, rien d'étonnant, hein? Mais le plus étrange, écoutez bien, c'est qu'elles achetaient toute une grosse quantité de culottes noires. D'habitude, les femmes étaient friandes de la nouveauté, alors pourquoi se contenter de ces grossières culottes noires en coton? Surtout que le père et fils s'occupaient principalement des acheteuses de culottes. Perplexe, il sortit de la boutique pour interpeller une cliente, afin de la questionner sur son achat. Mais en guise de réponse, elle le gifla violemment, wacha, en le juriant. Non mais franchement, quelle idée de questionner une femme sur sa lingerie, eh ben bon Dieu! Mais, plein de ressources, il envoya sa fiancée Janine questionner innocemment les clientes de la boutique. Mon Dieu, ma petite, toi qui es vierge, tu devrais en acheter, chuchota Octave, une fidèle cliente. Pourquoi donc ? Demanda innocemment Jeannine. Mon Dieu Seigneur, c'est à cause du Dorlis. Mais quel Dorlis ? Le grand Dorlis qui aime profaner le temple sacré des vierges. Il est tellement fort qu'il n'a même pas peur du sel. Mais apparemment, les culottes noires semblent le rebuter. Je ne savais pas qu'il y avait un qui sévissait dans les parages. Ta mère devrait en avoir honte, ma petite. Une bonne mère se doit toujours d'acheter des culottes noires pour sa fille. Si ce n'est pas un malotru qui rafle sa fleur, ce sera probablement Dorlis. Non mais franchement. Ah là là. Notre Évariste fut troublé par cette révélation. Mais l'autre nouvelle le plongea dans une grande réflexion. Jeannine découvrit également que c'était seulement la boutique Mille et Une Merveilles qui vendait ce genre de culottes. Aucune autre boutique de vêtements vendait des culottes noires. Apparemment, c'était que la famille Ajar qui détenait tous les stocks de l'île. Non seulement il avait un meurtre à résoudre, mais maintenant il se retrouvait enquêté sur Dorlis. Franchement, cette affaire prenait une tournure inattendue pour notre jeune inspecteur. Ça n'a d'autre qu'à penser. Il décida donc d'interroger Ahmed Ajar sur sa relation avec Jack Cléost. Avec un peu de chance, il confesserait que son copain fréquentait Claudette. Hélas, le commerçant nia en bloc et le menaça même de porter plainte contre lui pour diffamation. Évariste voulait lui brandir la facture d'achat du véhicule, mais comme par hasard, le garagiste n'en avait pas de copie. Donc aucune preuve. Tonnerre, c'est pas possible, patate ça. Le temps passait et la direction commençait à le titiller sous l'avancée de son affaire. Évariste se rendit tout de même au Lolo de Manchinotte au Tain-Saint-Ville. Car c'était le rare lieu où les grands gens et petits gens pouvaient se rencontrer. Béquets, mulattes, syriens, chinois, nègres, coulis pouvaient boire ensemble sans penser une seule fois à la couleur de peau. Manchinotte ne voulait pas de problème, lui révéla que Jacques et Ahmed avaient pour habitude de boire ensemble. Le plus troublant, c'est que les compères lui devaient beaucoup d'argent, mais du jour au lendemain, ils payèrent toutes leurs dettes. En fouinant un peu partout, l'inspecteur découvrit que le fils Ajar fut cribé de dettes. Le bougre avait dilapidé l'argent de la famille dans les jeux de cartes et combats de coq. Et subitement, par magie, il les avait tout épongés. Était-ce près de la communauté syrienne ? Nullement, puisqu'elle semblait en vouloir la famille Ajar, car elle détenait tous les stocks de culottes noires de l'île. Depuis qu'un puissant Dorlis visitait les jeunes filles en fleurs, la vente des culottes noires explosa considérablement. Et étant les seuls vendeurs, la famille Ajar pouvait gonfler sans scrupule les prix. Était-ce grâce aux ventes de culottes que le fils a pu éponger ses dettes ? Ça n'a qu'à penser. Mais quel était donc le lien entre Ahmed, Jacques et Claudette ? Peut-être qu'Évariste s'éparpillait trop ? Devait-il laisser la famille Ajar se concentrer sur son seul suspect, Jacques Cléost ? Tant de questions qui lui fracassaient le crâne. Notre compère jouait sa carrière. Il ne lui restait pas beaucoup de temps pour démarquer le coupable. Mais heureusement, le vent tourna pour notre compère. Un soir de pleine lune, son aïeul décédé, originaire du royaume d'Ahomey et déporté dans les champs de canne de l'île il y a 2 siècles, lui rendait souvent visite en songe. « Ichmoin, je sens que tu es tracassé. » « Ah oui, papy, j'ai besoin de ton aide pour résoudre cette enquête. Sinon, je serai la risée du commissariat. »« Mon fils, tu es un homme très intelligent. Cette fois-ci, je te laisse te débrouiller pour te prouver de quoi tu es capable. J'ai confiance en toi. Je reviendrai prochainement fêter ta victoire. » Et juste après sa conversation en songe avec son aïeul, Évariste se leva, flap, en sueur, en comprenant enfin le lien entre les deux compères. Manjalta la commère lui avait dit que la famille Cléost habitait près de Fromager. « Oh, si vous êtes un authentique antillais, vous savez que le fromager est le lieu privilégié des gens pour cacher leur peau afin de faire Dorlis la nuit. De plus, Ahmed Sachant cela, on a profité pour acheter tous les stocks de culottes noires afin d'éponger ses dettes. Et en guise de remerciement, il avait offert une voiture à Jacques Léoste. Et que Claudette, bien évidemment, était forcément liée. Pour quelle autre raison la tuerait? Il mentait en disant qu'il ne connaissait pas de Claudette Valtan. La fin de son enquête était proche. Mais comment expliquer cela à la direction? S'il prononçait le mot Dorlis au commissariat, on se foutrait royalement de sa gueule, ben bon Dieu. De plus, il n'avait aucune preuve. Mais sa bonne étoile brilla de plus belle lorsqu'une dame vint au commissariat lui confesser qu'elle avait vu quelqu'un balancer le corps de Claudette sur la plage. Je n'ai rien dit, car je ne voulais pas faire affaire avec la police. De plus, cela ne me regardait pas. Mais depuis ce jour, je n'arrive plus à dormir. Et le seul moyen de retrouver mon sommeil, c'est de vous dire ce que j'ai vu, confessa le témoin. Je vous écoute, Madame Villerousse. Voilà, j'avais chaud. Vous savez pourquoi à mon âge on a chaud la nuit. Bon, enfin bref, j'avais chaud et donc j'ai ouvert ma fenêtre pour laisser l'air passer. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelqu'un balancer le corps près de la plage. Pouvez-vous me décrire cette personne? Pas vraiment, mais je sais que ce n'était pas un nègre. Boutala, t'es blanc. Vous avez vu sa voiture? Non, je l'ai vu juste balancer le corps et partir en courant. C'était donc Ahmed qui avait fait le travail. Il l'avait étouffé avec une culotte noire. Mais comment les culper? Ce zozo avait un alibi en béton. En effet, Ahmed avait passé toute sa soirée auprès de son épouse Noor. Et ce n'était certainement pas son épouse qui dirait le contraire. La communauté syrienne était une communauté solidaire. Chacun aidait l'autre sans jamais que la population s'en mêle. Mais depuis la magouille du fils Ajar, c'était le moment privilégié de délier les langues. De ce fait, Évariste réussit à faire avouer le voisin du couple qu'Ahmed était sorti de chez lui cette fameuse nuit et qu'il lui devait beaucoup d'argent, mais au lieu de lui rembourser, il préférait le toiser. C'était donc une aubaine pour notre inspecteur. Il fit son rapport à la direction en ne mentionnant pas les attitudes occultes de M. Cléos, vous comprenez, afin qu'on l'autorise à inculper Ahmed Ajar pour le meurtre de Claudette Valtan. Surpris par son rapport, la direction accepta en riant sous cap. Depuis quand un Syrien perdrait son temps à tuer une négresse, alors qu'il a l'argent pour payer quelqu'un? Quelle fut leur grande surprise lorsque, pendant l'interrogatoire, Ahmed craqua en accusant M. Cléos d'avoir tué Claudette, car il connaissait leur entente. Tandis que M. Cléos accusait M. Ajar d'avoir tué sa fiancée. Tout commença un jour de chaleur dans le bar de Manchinotte. Ahmed, sous l'effet du rhum, avoua son compagnon de beuverie ses soucis de dette, tandis que Jacques confessait également ses problèmes d'argent. Et c'est grâce à la puissance du rhum blanc qui mit en place cette supercherie. Jacques en parla à Claudette afin qu'elle comporte la rumeur au guichet de la caisse des impôts. Et en quelques jours, les stocks de culottes furent liquidés. Mais ayant maintenant beaucoup d'argent et une belle voiture, Jacques ne voyait plus l'intérêt de fréquenter une pauvre fille du monde pichevin. Et c'est en la larguant que Claudette le menaça de les dénoncer aux clientes de la boutique. Même si l'un accusait l'autre, le tribunal les condamna sans ménagement, afin d'apaiser la colère de la population. Car bien évidemment, mes amis, Radio Bois Patate fit son travail en colportant les confessions des compères. Et face à cette supercherie, les mamans en colère commençaient déjà à s'échauffer devant le commissariat. Évariste était bien évidemment heureux d'avoir bouclé son enquête. Maintenant, la direction n'avait aucune raison de douter de ses capacités d'enquêteur. Comme promis, son aïeul vint lui rendre visite en songe afin de célébrer sa réussite. Il était heureux de l'exploit de sa descendance, même si la vérité était ailleurs. En effet, l'aïeul l'avait aidé en visitant discrètement Madame Villerousse en songe afin que celle décide à lui raconter ce qu'elle avait vu. Mais au lieu de lui dire que la personne avait une forte poitrine telle une femme, Elle préféra croire que seul un homme pouvait faire ce genre de choses. Si Évariste avait pu voir Nour dans son long voile et ses larges vêtements, Nour pour rappel est la femme d'Amel, il comprendrait assez vite que de loin Nour pouvait fortement ressembler à son époux. Eh oui, mes chers enquêteurs, depuis le début, Nour était au courant des déboires financiers de son mari qu'elle ne supportait plus. Elle avait accepté, par dépit, la magouille de son époux avec ce monsieur Clioste afin de retrouver sa stabilité financière. Mais surtout, pour que les autres ne la regardent pas de haut en se disant « Voici la femme de l'homme qui ne rembourse pas ses dettes ». Mais lorsque Claudette menaça de parler, Nour entra dans une grande colère. Il était hors de question de subir les crachats, les moqueries de la population. Sachant que son mari et Jacques étaient juste des grandes gueules, elle attendit que son époux tombe dans le sommeil pour enfiler ses vêtements et se faufiler à l'extérieur. Elle devait récupérer Claudette pas loin de chez elle, comme convenu, à l'abri des regards. La pauvre fille pensait que Nour allait lui remettre de l'argent pour se taire, mais au lieu de billets, elle fut étouffée par une culotte noire. La meurtrière avait prévu de balancer son corps à la mer, mais prise de panique, par son geste, elle déposa le corps de la victime au bord de la plage. Pendant tout ce temps, elle imaginait qu'elle serait arrêtée pour son crime. Mais elle fut grandement soulagée lorsque l'inspecteur lui posait uniquement des questions sous l'alibi de son époux. Le couillon était tombé dans le panneau. Waïaïaï. À coup sûr, il accuserait Ahmed de son crime. Et pendant que Ahmed et Jacques se disputaient toujours en prison, Nour prit tout l'argent et s'en alla vivre sa nouvelle vie de femme libre à Miami.